France Culture.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Astrid, bonsoir à toutes et à tous. La planète brûle et elle continue à brûler. Comment éteindre le feu? Les chefs d'État réunis en sommet depuis hier à Belém, en marge de la COP30, cherchent un mode d'emploi, mais ils veulent ménager la chèvre et le chou. On rejoint sur place en début de journal notre envoyée spéciale Véronique Rebérotte. Des noms d'oiseaux, des menaces, des pressions, la coordination rurale, le syndicat agricole qui monte, est en ébullition à l'approche des élections pour renouveler sa présidence. La cellule Investigation de Radio France s'est penchée sur la question, dossier dans ce journal. Nous reviendrons également sur la mort de Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault qui a dirigé la firme au Losange dans sa période charnière. Et puis nous nous intéresserons au prix Gouincourt, le Goncourt de la littérature lesbienne. Il sera décerné ce soir. Cap tout de suite sur le Brésil, sur Belém, dans sa partie amazonienne où se déroule depuis hier le sommet des chefs d'État en amont de la COP30 dont le coup d'envoi sera donné lundi. Entre le constat accablant de la dégradation sans fin de l'état de santé de la planète et la difficulté, voire la réticence à changer de paradigme, chacun marche un peu sur des œufs. Véronique Rebérotte, bonsoir.
Bonsoir.
Envoyé spécial de France Culture en direct de Belém, dans ce numéro d'équilibriste, le Brésil entend mouiller sa chemise pour parvenir à faire bouger les choses.
Oui, malgré les très mauvaises nouvelles sur le front climatique mondial, rappelées en tout début de sommet par l'Organisation Météorologique Mondiale, les 11 dernières années ont été les 11 années les plus chaudes jamais mesurées, et tout en admettant que le monde ne devrait pas réussir à se maintenir sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement, eh bien le défaitisme n'a pas sa place à Belém. Celui que l'on présente comme un champion de la diplomatie, le président brésilien Lula, a mouillé sa chemise, vous l'avez dit, c'est exactement ça, ces dernières 48 heures, pour convaincre que ce sera la COP de la remobilisation et de l'action. Très convaincant quand il dit vouloir aussi s'attaquer à la racine du mal, les énergies fossiles. Lula a appelé une feuille de route pour, je cite, surmonter la dépendance aux combustibles fossiles. Il veut en tout cas aborder ici le sujet d'une sortie mondiale des énergies fossiles le plus concrètement possible, tout en reconnaissant que ce ne sera pas facile.
Cela dit, Véronique, le Brésil n'en est pas à une contradiction près, car entre les discours et la réalité sur le terrain, il y a plus que de la nuance.
Oui, quand le président brésilien dit tout cela, eh bien, on lui rétorque qu'il commence à balayer devant sa porte. 8e producteur de pétrole au monde, le Brésil a tout récemment autorisé de nouveaux forages pétroliers dans la baie de l'Amazone. Mais n'y voyez aucune contradiction, hein, se justifie Lula avec un certain aplomb. D'abord, l'argent du pétrole peut servir à financer la transition énergétique du Brésil. Et pourquoi uniquement nous blâmer, nous, pays du Sud, quand d'autres exploitent ailleurs dans d'autres pays? Décarboner la planète s'annonce en effet plutôt difficile.
Véronique Rebérotte, merci, en direct de Belém au Brésil avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Des cris, des fumigènes, des coups de poing, l'interruption hier soir à Paris du concert du Philharmonique d'Israël continue à provoquer des remous. 3 hommes et une femme sont toujours en garde à vue. Des militants pro-palestiniens, selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui parle de faits très graves et totalement irresponsables. Sa collègue à la culture, Rachida Dati, explique que la violence n'a pas sa place dans une salle de concert. À l'extrême droite, on fustige des activistes antisémites d'extrême gauche. De son côté, le CRIF accuse la CGT et la France Insoumise d'hystériser le débat autour de Gaza. La CGT qui avait réclamé, avant le concert, la lecture d'un avertissement sur la scène de la Philharmonie pour rappeler au public les accusations qui pèsent sur les dirigeants israéliens, et LFI accusée de refuser de condamner les 3 interruptions du concert hier soir. Toujours est-il que sur la scène culturelle, Israël est de plus en plus isolé, avec la guerre qui fait irruption, par exemple, sur les scènes d'opéra. Ainsi, une collaboration artistique de prestige entre les opéras de Londres et celui de Tel Aviv s'est effondrée. Le Royal Ballet and Opera de Grande-Bretagne a annulé sa participation à Tosca l'an prochain en Israël. En cause, le soutien affiché de l'institution à l'armée de l'État hébreu. Mais loin d'annuler, l'opéra israélien contre-attaque. Il monte l'œuvre tout seul et promet une version éminemment politique. Michel Paul, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Correspondant de RFI de France Culture en Israël, vous vous êtes rendu à l'Opéra de Tel Aviv.
Oui, c'est probablement l'aria le plus connu de la Tosca de Puccini, et précisément, c'est une coproduction annulée après une lettre ouverte signée par plus de 200 membres du Royal Ballet and Opera de Londres pour protester contre ce qui est qualifié d'un alignement délibéré avec un gouvernement actuellement engagé dans des crimes contre l'humanité. Alors, ce qui est reproché à l'opéra israélien, c'est notamment le fait d'offrir des places gratuites aux militaires et aux réservistes de l'armée israélienne. Tali Barash-Gotlib est la directrice générale de l'opéra de Tel Aviv.
Nous avons rencontré de grandes difficultés au cours de l'année qui s'achève et nous nous attendons à des problèmes pas moindres lors de la prochaine saison. Et c'est pour cela que nous mettons l'accent sur la participation de créateurs israéliens car les productions internationales à l'heure actuelle présentent véritablement un grand défi.
Et Tosca sera donc malgré tout à l'affiche à Tel Aviv, Michel.
Olivier, mais il s'agira d'une production exclusivement israélienne et probablement plus modeste, une situation qui affecte les artistes israéliens comme Anna Tcharny, mezzo-soprano.
Je peux comprendre tous les deux côtés du sujet, mais
j'étais très déçue. Moi, je crois que l'art, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui est produit pour, en fait, rapprocher les gens. Et donc, j'ai un peu l'impression que c'est pas la politique qui gagne, mais plutôt c'est l'art qui perd.
Appel au boycott de festivals et refus d'inviter des artistes israéliens. Alors même après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, ce phénomène se poursuit et s'amplifie même.
Michel Paul, correspondant d'RFI et de France Culture en Israël. Près de 4 ans après l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne a décidé de limiter dès aujourd'hui l'entrée des Russes sur son sol. C'est une annonce de la Commission. Fini les visas à entrée multiples. Ce sera une seule entrée dans l'Union, donc pas possible de voyager à l'intérieur. Une mesure qui, pour l'opposition russe, va surtout faire le jeu de la propagande du Kremlin. Virginie Pirounan.
Oui, c'est une mesure qui, selon de nombreux dissidents, permettra au Kremlin d'isoler encore un peu plus la société russe, déjà étroitement sous contrôle. Mariana Katsarova est rapporteuse spéciale auprès de l'ONU sur les droits de l'homme en Russie. Ils font le jeu de la propagande russe qui dit « Regardez, à l'Ouest, ils sont russophobes. Ils n'aiment pas les Russes. Je pense que c'est vraiment contre-productif. » D'autant plus, poursuit la défenseure des droits de l'homme, que l'Union européenne devrait au contraire tenter de soutenir tous ceux qui osent encore s'opposer de l'intérieur au régime de Vladimir Poutine. Quant à l'argument évoqué par la Commission de se protéger contre les attaques hybrides ou les espions, je pense qu'ils sont déjà dans nos pays en Europe et ils n'ont pas besoin de visa car ils ont déjà une des citoyennetés européennes. Cela a été démontré à plusieurs reprises. Et le gouvernement russe utilise d'autres nationalités, comme par exemple des ressortissants serbes, moldaves ou bulgares, comme cela a été le cas en France ces derniers mois. Pour les visas multiples, la Commission promet des exceptions pour les défenseurs des droits de l'homme ou les avocats. Mais selon quelle modalité ? Mariana Katsarova sera à Bruxelles la semaine prochaine pour poser la question aux gouvernements européens.
Virginie Pirounan. La France recommande à ses ressortissants au Mali de quitter temporairement le pays dès que possible en empruntant les vols commerciaux encore disponibles. Recommandation alors que le contexte sécuritaire se dégrade dans le pays, jusque dans sa capitale Bamako. Le Quai d'Orsay, qui déconseille également bien sûr de se rendre au Mali, évoque de multiples attaques menées sur les routes par le groupe terroriste JNIM, la branche sahélienne d'Al-Qaïda. Les précisions d'Étienne Monod.
Oui, la France suit les États-Unis, la Grande-Bretagne et notamment l'Allemagne. 4300 ressortissants sont inscrits sur les listes consulaires. Le ministère leur conseille de partir assez vite, temporairement, par les airs et non par la route. Les relations entre la France et la junte au pouvoir depuis 5 ans sont tendues. Mais depuis septembre dernier, le contexte s'est encore aggravé. Les groupes djihadistes ont mis sur contexte sécuritaire se dégrade à l'échelle du pays.
Ces drapeaux jaunes sont de plus en plus visibles dans les manifestations d'agriculteurs. La coordination rurale, c'est le syndicat agricole qui monte en puissance à grand renfort d'action coup de poing. L'ACR a planté ses couleurs dans 11 chambres d'agriculture qu'elle préside aujourd'hui en France et elle se prépare à élire son ou sa nouvelle patronne. Ce sera les 18 et 19 novembre prochains à Auch. L'actuelle présidente Véronique Le Floch est candidate à sa propre succession. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
De la cellule Investigation de Radio France, menaces, injures et pressions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le climat ne respire pas la sérénité dans cette course à la présidence de la coordination rurale. Vous avez découvert plusieurs documents qui dévoilent une ambiance délétère en interne.
Oui, une longue liste d'injures d'abord diffusée sur un groupe WhatsApp et qui est résumée dans un document qui circule au sein de la coordination rurale. Minable, fouille merde, la direction de la CR y est copieusement insultée par des leaders du Sud-Ouest. Un message évoque même un mélange explosif entre ammonitrate, c'est de l'engrais azoté, carburant et détonateur à destination toujours de la direction. Rémi Dumort, président CR de la Chambre d'agriculture de Dordogne, qui apparaît comme l'auteur, dit lui ne pas se souvenir d'avoir écrit cela, mais voici sa réponse.
Alors l'ammonitrate, vous savez ce que c'est ? C'est des solutions. Je n'ai pas parlé de tout faire péter. Vous savez, c'est pas parce que vous dites ça que vous le faites. Hein. C'est pas un appel au terrorisme, hein. Loin de là.
Lionel Candelon, président, lui, de la Chambre d'agriculture du Gers, assume avoir traité un membre de la direction du syndicat de Charogne parce que le National ne l'a pas assez soutenu, dit-il, ces derniers mois.
En un an et demi, je suis passé de simple agriculteur à président de chambre d'agriculture. Dieu sait qu'on en a bavé pendant 6 mois, parce qu'il n'y avait aucun contact sur le travail, ni sur le fond, ni sur la forme, de est-ce qu'on allait bien, est-ce qu'on était toujours vivant, est-ce qu'on s'en sortait.
Lionel Candelon a été convoqué devant le comité d'éthique du syndicat.
Et dans ce groupe WhatsApp, Julie, il y a aussi le président de la chambre d'agriculture de Haute-Vienne.
Oui, c'est Bertrand Venteau qui veut succéder à Véronique Le Floch à la tête de la coordination rurale. C'est son adversaire officiel. Il minimise ses insultes.
Il y a du caractère au kilomètre carré à la CR. Hein. Des fois, on se dit ce qu'on a à se dire. Nos histoires de famille restent chez nous. Ça n'intéresse personne, à part ceux qui veulent nous diviser pour dire « regardez, ils ne s'entendent pas ».
Pourtant, selon nos informations, une plainte a bien été déposée en septembre par un membre de la direction de la coordination rurale. Le parquet de Tulle a ouvert une enquête pour harcèlement moral et menace de destruction dangereuse pour les personnes.
Julie Pietri, vous avez également eu accès à un mail de menace rédigé là encore par un leader de la coordination rurale du Sud-Ouest et adressé à Véronique Le Floch, la présidente du syndicat.
Oui, cet été, José Pérez, président de la CR du Lot-et-Garonne, la branche la plus puissante du syndicat, connu pour ses coups de pression, a réclamé près de 50 000 euros au National pour payer les amendes d'agriculteurs condamnés à titre personnel pour des dégradations lors des manifestations agricoles de l'an dernier. Nous en avons fait lire un extrait.
J'ose espérer que le National ne fera pas de chichi pour régler les amendes. Merci de nous faire le virement rapidement. Je n'aimerais pas devoir venir à Gimont récupérer l'argent qui nous est dû.
Gimont, c'est le siège de la coordination rurale dans le Gers. L'argent du syndicat est en partie public et ne peut en aucun cas servir à payer des amendes personnelles, s'agace un dirigeant de la CR qui dit en avoir assez des intimidations. José Pérez, l'auteur du mail, lui, assume complètement.
Imaginez si mes agriculteurs qui vont être condamnés, ils avaient leurs amendes à payer. C'est le début de la peine, quoi. Il n'y aurait plus un agriculteur qui vient de manifester. Ce n'est que du bon sens, légal ou pas légal, j'en sais rien, mais ça reste du bon sens.
Et aujourd'hui, José Pérez figure sur la liste de Bertrand Venteau, l'adversaire donc de Véronique Le Floch pour la présidence. Le congrès national du syndicat s'annonce mouvementé.
Julie Pietri, merci. L'enquête complète de la cellule Investigation de Radio France est à retrouver sur l'appli Radio France. Après l'ouverture mouvementée avant-hier d'un corner Shein au dernier étage du BHV à Paris, l'enseigne chinoise va s'installer dans les rayons des galeries Lafayette de Dijon et Reims les 18 et 21 novembre. D'ici là, ces magasins devraient être rebaptisés BHV par la Société des Grands Magasins qui en est propriétaire. Le géant chinois de la fast Fashion doit également ouvrir à Angers et Limoges, mais aucune date n'a encore été annoncée. La mort de Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault, il était âgé de 83 ans, haut fonctionnaire, ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon. Louis Schweitzer a passé 20 ans chez Renault, dont 13 comme PDG entre 92 et 2005. Camille Magnard, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Une période charnière pour la marque aux losanges.
Oui, parce que c'est Louis Schweitzer en 90 1989 qui a mené la privatisation partielle de Renault un demi-siècle après sa nationalisation à la libération en 1945. Un paradoxe, le signe d'une évolution en tout cas pour ce patron qui avait été l'artisan depuis Bercy où il conseillait Laurent Fabius des grandes nationalisations en 1982. Mais Louis Schweitzer, plus largement, a orchestré la mue de Renault, de régie automobile publique surendettée en multinationale conquérante avec l'acquisition de Dacia en Roumanie et l'alliance avec le japonais Nissan la même année 1999. Tout ça ne s'est pas fait sans casse sociale. Deux ans plus tôt, 1997, 3100 ouvriers laissés sur le carreau aux usines belges de Vilvoorde. C'était l'un des symboles les plus retentissants à l'époque des délocalisations qui commençaient à se multiplier. Ça vaudra au PDG une condamnation en justice pour ne pas avoir respecté les règles du dialogue social, une tâche dans sa carrière de patron d'industrie venu de la gauche. C'est aussi lui qui a fait entrer Carlos Ghosn chez Renault, lequel prendra sa suite à la présidence en 2005 et n'aura de cesse de défaire l'édifice imaginé par son prédécesseur. Pendant ce temps, Schweitzer, lui, renoue avec des engagements plus sociaux, la lutte contre les discriminations, la promotion de l'entrepreneuriat dans les quartiers défavorisés et le bien-être animal, une manière de se remettre en accord avec ses convictions, disait-il en 2021 au micro de France Inter.
Vous savez, dans ma vie antérieure, je n'avais pas vraiment eu l'occasion de mettre en œuvre mes convictions. Et là, sur ce sujet, eh bien, j'ai la capacité d'agir de façon à faire progresser la condition animale en France et en Europe.
Et ce soir, la Fondation Droit Animal qu'il présidait salue la droiture, la clarté de pensée et l'art de la diplomatie dont a fait preuve Louis Schweitzer.
Camille Magnard, merci. Vous écoutez France Culture, il est 18h16. Après le Goncourt, le Gouincourt, à l'origine de ce prix littéraire qui récompense les œuvres lesbiennes, un média lesbien raisonnable qui couronnera ce soir sa ou son lauréat, avec, au-delà de ce festival de jeux de mots, de vraies questions théoriques et un besoin de visibilité d'œuvres longtemps invisibilisées. Bonsoir Chloé Leprince.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
La littérature lesbienne, Chloé, on peut dire que c'est un objet fuyant.
Pendant longtemps, il n'y a pas vraiment eu de recherche universitaire sur les œuvres lesbiennes, entre guillemets, ni même d'ailleurs sur ce que pourrait être le lesbianisme en littérature en soi. Les premières études remontent aux années 1980, c'est Marie-Jo Bonnet qui ouvrait le bal à l'époque, mais des étudiantes qui voulaient en faire une thèse au tout début des années 90 se faisaient encore conseiller de changer de sujet si elles espéraient vaguement une reconnaissance académique. C'est ce que raconte par exemple Gaëlle Deschamps. La première thèse sur Monique Wittig est soutenue en 1999. On la doit à Catherine et Carnot. C'est un jalon important, mais pas suffisant pour faire carrière en travaillant sur les écrits lesbiens. Il faut attendre pas loin de 20 ans pour que le domaine s'installe vraiment, avec toujours l'idée que les écrits lesbiens ne sont pas en marge de l'histoire littéraire, mais en son sein. Durablement pourtant, ce sont des associations, des groupes militants qui vont porter cette aspiration. Les amis de Monique Wittig, par exemple, ou encore les amis de Violette Leduc. Le retour de Monique Wittig en librairie ou dans les médias est très tardif, même si aujourd'hui elle est à la mode, comme si finalement elle avait été redécouverte seulement récemment.
Cela dit, Chloé, il n'est pas évident de définir ce qu'est la littérature lesbienne.
C'est ce que ne cesse de mettre en évidence un livre collectif, Écrire à l'encre violette, qui est paru en 2022 aux éditions Le Cavalier Bleu. Un livre très utile vu la pénurie ambiante sur le sujet et le besoin de finesse d'analyse. Il n'y a pas une définition de la littérature lesbienne. Certains écrits d'amour entre femmes sont le fait d'hommes hétérosexuels qui projettent d'ailleurs leurs fantasmes. D'autres sont écrits par des femmes qui ont pu aussi aimer des hommes. Et puis certaines autrices lesbiennes sont connues pour n'y avoir pas consacré une ligne ou avoir refusé l'étiquette. Bref, la définition est ardue et celles et ceux qui travaillent sur la littérature lesbienne ne cessent de s'interroger au fond sur les critères. Et pourtant, quantité d'écrits lesbiens ont paru depuis plus d'un siècle. Une production foisonnante qu'on a souvent passée sous silence. Et derrière le Gouincourt, qui se revendique une parodie bienveillante et humoristique, on retrouve Virginie Despentes, membre du jury, mais aussi Elisabeth Lebovici ou Alex Lachkar, qui justement contribuait d'une manière ou d'une autre à ce livre Écrire à l'encre violette, enquête sans précédent sur les littératures lesbiennes.
Chloé Leprince, et ce prix Gouincourt sera dévoilé ce soir au cours d'une soirée au Point éphémère à Paris. Le rappeur américain Kendrick Lamar a été nommé aujourd'hui à 9 reprises, figure en tête des nominations pour la 68e édition des Grammy Awards, les récompenses américaines de la musique qui seront décernées le 1er février prochain à Los Angeles. La météo, préparez-vous à l'arrivée d'une petite dégradation qui arrivera par l'ouest dans la nuit et provoquera des pluies éparses un peu partout dans la moitié nord, mais aussi dans le sud, le long de la frontière avec l'Espagne notamment, où de la neige est même prévue sur les Pyrénées au-dessus de 2000 mètres. Il fera beau sur les Alpes et des orages sont à prévoir en Corse. Niveau température demain de 6 degrés pour les minimales dans l'est à 17 pour les plus élevés au sud. C'est la fin de ce journal. Merci à Alison Vicrobeck qui m'a aidé à le préparer. Paul Guigues était à la technique.